moi j'ai André de Moussaï au cachet oriental. J'ai réussi totalement ce qui
se passe. Moi j'ai Cédric de Moussaï au cachet oriental. Je rencontre en concluant les deux familles de mes présidents trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et merci d'être très nombreux à suivre cette émission interactive Parole aux auditeurs. Cette émission qui vous donne la parole. Vous êtes déjà très nombreux à réagir par SMS, par Internet et au téléphone. Soyez les bienvenus dans cette émission Un éboulement sur un terrain sablonneux de Kinshasa. C'est 3 morts, 5 disparus et 15 de maisons emportées. C'était dimanche dernier dans la commune d'Engaliema, déjà la semaine passée, pour vous rafraîchir la mémoire. Toujours à Kinshasa, l'effondrement d'un immeuble avait fait 3 morts et 2 blessés. Connaissez-vous les mêmes problèmes de construction anarchique là où vous êtes? Votre témoignage nous intéresse. Quelles sont les responsabilités dans ce domaine en RDC? Et quelle politique d'habitat préconisez-vous pour éviter d'autres drames à travers la RDC comme ceux que Kinshasa a connus cette semaine et la semaine dernière? Dans cette émission, Parole aux auditeurs, pour vous aider à mieux comprendre cette question, nous avons fait appel à un ingénieur en bâtiment et travaux publics. Il s'appelle Michaud Ouyumbu, il est consultant dans un cabinet privé d'ingénierie. Soyez les bienvenus.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs. Composez le 081-99-77-800 par internet en écrivant à pa@radiocatif.net.
Direction l'Allemagne où Vincent est déjà en ligne. Bonjour Vincent.
Oui, bonjour.
Voilà, on écoute votre proposition, votre point de vue.
Oui, je trouve d'abord dommage qu'un bâtiment puisse tomber, les gens qui étaient dedans sont morts, ça c'est vraiment très dommage.
Oui.
Ce que je demanderais à notre État, c'est peut-être de contrôler toutes ces constructions.
Oui.
D'abord, il faut qu'on ait vraiment des constructeurs qui sont de haute qualité, qui savent comment il faut construire un bâtiment, qu'est-ce qu'il nous, donc, de quoi on a besoin pour construire un bon bâtiment. Et puis, l'État doit d'abord contrôler toutes ces structures-là pour que de telles actions ne se répètent plus.
Merci beaucoup d'avoir appelé de l'Allemagne. Je salue en passant tous les internautes qui nous suivent à partir de l'étranger. Vous pouvez vous aussi intervenir dans cette émission en appelant 081-99-77-800, 00243 si vous êtes à l'étranger, 81-99-77-800 ou par internet. Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse pa@radiookapi.net. Merci beaucoup d'être intervenu. Au revoir. Je me tourne maintenant vers vous, Michaud Ouyumbu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur et consultant dans un cabinet privé d'ingénierie. Votre première réaction, quelle est l'ampleur du problème de construction anarchique en République démocratique du Congo?
Alors là, et premièrement, je suis en train de m'étonner qu'il y ait seulement un immeuble qui s'est effondré. Parce que, évidemment,
vous souhaitez qu'il y ait plus d'immeubles?
Non, moi je ne souhaite pas. Mais quand je passe quelque part, je regarde comment les constructions sont en train de monter en hauteur. Moi qui suis constructeur, il y a des fois, je m'étonne moi-même. Je me dis, mais comment ces maisons tiennent? Je suis vraiment en train de m'étonner. Tout simplement parce que c'est un cadre où règne un désordre que vous ne pouvez vraiment pas vous imaginer. Il y a un désordre. Vous ne savez pas qui fait quoi, qui a quelle compétence pour intervenir, à quel niveau. C'est carrément un secteur où règne complètement le pouvoir de la poche. C'est-à-dire quelqu'un se dit, j'ai mon argent, je construis ma maison comme je veux. C'est un peu ça le secteur. Alors, avoir ce qui se passe maintenant, cela n'est qu'un signe avant-coureur de ce qui pourrait arriver dans 3 ans et un peu plus tard. Donc, c'est vraiment un domaine où on doit s'y pencher de maintenant. Sinon, demain après-demain, on va continuer encore à pleurer d'autres morts.
Mais, Michaud Ouyumbu, je rappelle que vous êtes ingénieur en bâtiment et travaux publics, consultant dans un cabinet privé d'ingénierie. Comment peut-on expliquer l'effondrement de cet immeuble la semaine passée en Ndolo, où 3 personnes sont décédées? Certaines personnes ont affirmé que, au lieu d'utiliser des barres de fer de 12 cm, ils en ont utilisé, les constructeurs en ont utilisé de 8 cm.
Alors là, je n'en sais rien, mais parce que j'ai vu des images à la télévision, et j'ai quelques images des journaux de la place, Et quand on observe ce qui s'est passé, on se dit tout de suite qu'il y a avoir eu un problème d'enflammement des poteaux. C'est-à-dire les poteaux qui sont en bas ont cédé et a entraîné complètement l'ensemble de l'ouvrage. Alors là, on se dit, s'il y a eu enflammement des poteaux du niveau du rez-de-chaussée, ça veut dire qu'il peut y avoir eu un problème de sous-dimensionnement de l'ouvrage.
Ça, c'est technique. Enflammement des poteaux, ça signifie quoi concrètement pour que nos auditeurs, hein, langage facile puissent comprendre.
Bon, alors, ça veut dire que les poteaux d'en bas ont subi, je ne sais pas comment expliquer ça, ont subi une certaine flexion due aux charges que le poteau devait supporter. C'est-à-dire que le poteau a cédé face à ces charges-là qui étaient en hauteur. Ce qui signifie évidemment qu'il peut y avoir soit un problème d'insuffisance d'armature qu'il y avait dans ce poteau-là, soit un problème de mauvais dosage. Et puis, je voulais souligner une chose aussi. Il peut y avoir aussi un problème de qualité des armatures utilisées. Parce que là, il y a un autre problème. Il n'est infecté pour personne. Tout le monde qui évolue dans le domaine de la construction sait que sur le marché, il y a beaucoup de barres de fer dont la qualité n'est pas tellement bonne. Donc là, ça soulève un autre problème de qualité des matériaux utilisés, dans lesquels le dimensionnement était bien fait, mais dans le cas des fesses, je ne sais pas dire, est-ce qu'il y a eu mauvais dimensionnement, est-ce qu'il y a eu mauvaise qualité de matériaux, ou il y a eu mauvaise exécution de travaux. Voilà.
Parole aux auditeurs.
Vous êtes très nombreux à intervenir à partir de l'étranger. Un exemple, c'est celui de Paulin de Burundi. Bonjour, Paulin. Paulin, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez à partir du Burundi. On vous écoute parce que la qualité sonore, on ne vous entend pas très très bien. Essayez de parler pour que on se rende compte de la bonne qualité de votre de notre liaison avec vous.
Oui, moi je vous écoute. Peut-être que c'est parce qu'il y a un mauvais climat que ça s'est causé comme ça.
Allez-y, on peut vous entendre.
Par rapport à quelque... Oui.
Allez-y, on vous écoute.
Allô,
Paulin, on vous écoute.
Okay. Par rapport à ce bâtiment, donc la mort de ces trois personnes, moi de ma conception, c'est pas la faute du tout de ni de l'ingénieur, ni du constructeur, mais je dirais que c'est la faute des autorités qui n'avaient pas fait au moins l'état des lieux. Comment un bâtiment qui doit être érigé comme ça, sous intérêt marécagé, comment toutes les structures ne devraient pas être suivies avant? Puisque nous qui sommes au mieux à l'extérieur du pays, quand les gens construisent des maisons, il y a des normes qui sont suivies et l'État doit au moins y mettre son œil. Donc l'œil de l'État ne doit pas être à côté de ce qui est en train de se passer. Alors, nous, on a été surpris, trouver que les gens sont morts sur le terrain, et pendant que les gens y passaient, ils étaient en train de voir que c'était un bâtiment qui était mal construit, qui était construit dans un terrain qui n'est pas construisable. Nous, ce qu'on se demande, on se pose beaucoup de questions sur ça. Alors, celui qui doit être puni, c'est peut-être celui qui était chargé de donner l'autorisation de l'artiste sur ce terrain.
Ok. Paulin, vous êtes au Burundi. Votre témoignage nous intéresse. Hein. Je rappelle tout simplement à nos auditeurs qu'il y a eu deux accidents, l'un la semaine passée, l'autre cette semaine, dimanche. Le dernier accident, c'était le dimanche où il y a eu un éboulement sur un terrain sablonneux de Kinshasa qui a fait 3 morts, 5 disparus et une quinzaine de maisons emportées. Et puis la semaine passée, en Ndolo, ici à Kinshasa toujours, un immeuble s'était effondré et puis il y a eu 3 morts et 2 blessés. Dites-nous un peu rapidement, Paulin, au Burundi, comment ça se fait pour que quelqu'un puisse obtenir une autorisation de bâtir? Comment se fait les contrôles?
Vous dites que je n'ai pas bien suivi la question.
Vous dites que chez vous, au Burundi, là où vous habitez, il y a quand même un certain contrôle hein, lorsque quelqu'un doit bâtir une maison. Dites-nous un peu comment ça se passe là-bas? Comment se passe ce contrôle? Rapidement.
Bon. Très rapidement, ici, bon, nous qui sommes venus du Congo, nous regardons les choses, c'est comme si nous sommes en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Puisqu'ici, avant qu'une personne érige une maison, il doit d'abord suivre toutes les normes cadastrales. L'État doit y aller, faire les effets topographiques, voir si ce terrain est construisable. Après ça, c'est maintenant qu'on peut accepter que la personne puisse diriger une maison. Donc, on doit lui donner l'autorisation de bâtir après que l'État a déjà accepté que ce terrain peut être construit. Donc, on ne donne pas au hasard, sinon, s'il peut y en avoir un accident, c'est maintenant que l'État peut être condamnable.
Merci.
Je ne sais pas si c'est pas ça l'État qui se passe chez nous.
Merci beaucoup, Paulin, de nous avoir appelé du Burundi. Hein, et nous saluons également en passant tous ceux qui nous suivent au Burundi et dans tous les autres pays du Grand Lac.
Parole aux auditeurs.
Michel Ouyumbu, vous êtes ingénieur en bâtiment et travaux publics, consultant dans un cabinet privé d'ingénierie. Finalement, le dernier boulement qui s'est passé sur un terrain sablonneux de Kinshasa, à Binta précisément, qui a fait 3 morts, 5 disparus et une quinzaine de maisons emportées, finalement pose le problème des autorisations de bâtir, comme vient de le suggérer également Paulin de Bondy. Et comment peut-on permettre, est-il possible de permettre que des constructions soient érigées sur des terrains sablonneux?
Non, non, là c'est pas du tout possible. Et je pense que pour la ville de Kinshasa, il y a un premier problème, c'est le problème du plan d'aménagement général de la ville. C'est-à-dire que la ville devait disposer d'un plan d'aménagement général, et dans ce plan d'aménagement général, on doit définir les zones non édificandies et les zones édificandies.
Ça signifie quoi?
C'est-à-dire les zones pour lesquelles on ne peut pas construire et les zones pour lesquelles on peut construire. Généralement, ça peut être...
Et puis dans les derniers boulements, il y a eu... C'était bâti sur un ravin, et les maisons...
Exactement.
On plongeait carrément dans
la mer. C'est-à-dire les zones non édificantes ou les zones qu'on peut, sur lesquelles on ne peut pas construire, ce sont des zones de grande pente qui sont carrément exposées aux érosions ou aux éboulements. Ce sont des zones de bas-fonds qui sont exposées aux inondations et où ce sont des zones pour lesquelles la topographie du terrain ne permet pas qu'on érige une construction à des coûts acceptables. Alors, il y a aussi d'autres zones, par exemple, les zones non loin de rivières urbaines, par exemple, tout simplement parce que vous êtes sur le bassin de la rivière et vous pouvez être un jour surpris par une inondation. Donc, toutes ces différentes zones-là doivent être définies et malheureusement, même si ces zones sont définies, on doit porter à la connaissance du public le plan d'aménagement général et le plan particulier de chaque commune pour que le public sache que dans ces zones-là, on n'est pas construit. Il n'y a pas que ça, néanmoins. On doit mettre des mesures pour empêcher que les gens construisent dans ces zones-là.
Mais il y a aussi des têtus, hein, tout en le sachant, voudrait quand même avoir un lopin d'auteur pour
évidemment,
construire une maison.
Et l'État, le moyen d'empêcher les gens de construire dans ces différentes zones. Comment pouvez-vous accepter, par exemple, que quelqu'un monte un immeuble jusqu'à 2-3 étages et que l'immeuble s'effondre sans que l'État l'ait arrêté?
Merci beaucoup, Michel Ouyumbu. Ernest, vous êtes en Angleterre, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Ernest.
Non, je voulais juste ajouter un commentaire. Il a bien expliqué votre intervenant, mais je voulais juste préciser, en fonction du bâtiment qui est tombé, j'ai lu dans le journal, on accuse tout de suite les structures et tout. Après analyse des photos qui m'ont été soumises, moi j'ai plutôt envie de dire qu'il y a, à mon avis, il y a plutôt 3 cas qui peuvent intervenir dans l'effondrement de ces bâtiments. J'ai relevé premièrement, puisqu'on sort des périodes de pluie. Pour moi, il y a eu un gros problème. Donc, premièrement, on est sur un sol qui était sablonné, marécagé, et il y a un problème pour moi qui s'est fort causé, c'est le problème d'érosion. C'est-à-dire quoi? Sur nos pays, on n'a pas de système de canalisation, donc l'eau est sur la terre nue, et donc amène la terre avec, donc, érode la terre. Donc, ce qui fait qu'il y a des crèvements, ce qui fait que même si vous avez une structure qui est raisonnable, qui a été bien calculée, vu ces problèmes d'érosion, vous vous trouvez dans des problèmes, comme vous avez connu, donc, l'effondrement de ces bâtiments-là. Donc, il y a eu aussi un autre facteur que je fais relever ici, c'est le facteur des structurations. Donc, les fondations dans les sols sablonnés ou marécagés doivent être calculées en fonction. Ça veut dire que sur un sol comme ça, moi, en tant qu'architecte, je ne vais pas travailler avec des fondations simples. Je vais plutôt travailler avec des tuiles. Donc, ça veut dire que ce sont des colonnes qu'on introduit très profondément dans le sol. Et sur ces colonnes-là, on vient mettre une ceinture de béton pour étendre le bâtiment parce que le sol n'est pas stable. Mais il faut aussi préciser, c'est que sur tous les sols
surtout le sol, comme le sable, par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'amalgame là-dessus. Le sable est un élément très compact, on peut construire dessus. Mais il faut prendre des précautions avant de construire. Mmh. Et je voudrais rajouter quelque chose en fonction de ce que l'intervenant venait de dire. Oui. Il y a des sols qui sont dangereux, sur lesquels il est interdit de construire, mais il y a d'autres sols, il faut juste prendre des précautions avant de construire.
Merci.
Les styles de structure, les styles de béton qui doivent être utilisés pour pouvoir aménager sur ces terres-là.
Merci, merci beaucoup Ernest, on a compris votre idée. Donc il faudrait tenir compte de tous les paramètres pour pouvoir construire. Merci de nous avoir appelé de l'Angleterre.
Début de l'opération de la révision du fichier électoral le dimanche 7 juin 2009 à Kinshasa et au Bas-Congo. La commission électorale indépendante invite la population, les partis politiques et toutes les forces vives de la nation à participer massivement et à soutenir cette opération. La CEI informe l'opinion nationale et internationale que cette révision du fichier électoral est valable pour les élections urbaines, municipales et locales, ainsi que pour les élections générales en 2011.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Un éboulement sur un terrain sablonneux de Kinshasa fait 3 morts, 5 disparus et une 15aine de maisons emportées. C'était dimanche dernier dans la commune de Ngaliema et déjà la semaine passée, toujours à Kinshasa, l'effondrement d'un immeuble avait fait 3 morts et 2 blessés. Connaissez-vous les mêmes problèmes de construction anarchique là où vous êtes? Votre témoignage nous intéresse. Quelles sont les responsabilités dans ce domaine en RDC et quelle politique d'habitat préconisez-vous pour éviter d'autres drames à travers la RDC comme ceux que Kinshasa connu cette semaine et la semaine dernière? N'hésitez pas à appeler nous au 081 99 77 800, et vous pouvez également nous envoyer vos SMS à ce même numéro. Vous pouvez également nous écrire par internet à pa@radiocapi.net. PA, c'est le signe de parole aux auditeurs. Voilà, j'ai quelques SMS et des mails qui nous sont parvenus. Merci de nous les avoir envoyés. Il y a par exemple le SMS de Benoît, de Mbujimayi au Kasaï Oriental, qui dit ceci: il n'existe pas d'anarchie là où l'autorité de l'État est bien établie. Au Congo, les autorités sont toujours impliquées dans l'implantation anarchique de construction des bâtiments, distribution parcellaire, dans les cas d'espèce de l'urbanisme et habitat, comme du cadastre, participe d'après lui, dans la plupart des cas, à cette situation. Il demande que l'autorité puisse impérativement être rétablie pour pallier à cette insuffisance, car seuls les chefs et agents de ces services en tirent profit au détriment du trésor public et du peuple. Il y a aussi, nous avons également quelques SMS, je vais en lire quelques-uns. Il y a par exemple quelqu'un qui ne nous a pas envoyé son nom, hein. Il dit ceci: à la cité verte ici à Kinshasa, sur la 11e rue, les bambous ont été coupés et remplacés par des maisons et des puits pour recueillir les eaux de pluie. Il y a aussi Patu de Kindu dans la province du Maniema qui s'exprime en ces termes: à Kindu, nous connaissons le problème de construction anarchique, la responsabilité revient à 80% au service de l'État et à 20% à la population. N'hésitez pas, envoyez-nous aussi vos SMS et vos mails. Nous ne manquons pas de pouvoir les lire. Rousi, de Rousizi, nous avons en ligne Kassongo. Bonjour Kassongo.
Bonjour monsieur le journaliste.
Et vous êtes au sud Kivu, si je ne me trompe pas?
Ah oui, effectivement, je suis au sud Kivu.
Allez-y, exprimez votre idée.
Oui, c'est un rapport avec le sujet du jour. Oui. Nous avons émis quand même notre observation en rapport avec les constructions en Afrique.
Ouais.
Et vous connaissez que la ville de Bukavu, c'était la ville la plus urbanisée pratiquement de la République. Mais à un certain moment, nous avons connu des constructions en Afrique énormes. Étant donné que, bon, il y avait eu un escalier de l'État, et les responsabilités, comme nous l'avons dit, certaines responsabilités reviennent directement aux autorités compétentes de tutelle. Parce que on ne peut pas construire comme ça n'importe comment sans qu'il y ait des documents ou bien des documents de titres pour le titre immobilier pour des constructions. Ça, c'est la première responsabilité. Ça, c'est direct. Ils ont donné des parcelles n'importe comment et ça constitue l'anarchie. Et la deuxième responsabilité, il y a certaines influences politiques qui ont fait qu'on a distribué anarchiquement des parcelles et qui contribuent aussi aujourd'hui à la destruction même de la ville. Et nous avons vu même des arrêtés du gouverneur de la province qui dit on interdit de construire dans telle concession et elle est arrêtée, vient abroger, on donne toujours et ça contribue à des situations d'anarchie dans la destruction de la ville. Et nous avons effectivement dit il y a quand même des propositions de solutions, il y a des autorités qui sont directement impliquées dans ces arts d'anarchie. Et ce que nous disons en rapport avec les dossiers de pistes de solutions, c'est qu'il faut qu'on fasse quand même initier des autres missions à. Pour des milliers de agents de cadastre et d'urbanisme, pour qu'ils fassent l'état de lieu, de mesurage, de bornage et contrôle, et que l'État fasse quand même un document pour arrêter ce genre de situation.
Merci beaucoup, Kassongo. Vous nous avez appelé de Rouzizio, Sud Kivu, et nous saluons en passant tous les habitants de Sud Kivu qui nous suivent à travers Radio Capio, à travers le radio partenaire. Merci et bonne journée chez vous.
Parole aux auditeurs.
Franck, vous êtes en train d'enlever, vous êtes en direct sur Radio Capi. On vous écoute.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs de la Radio de la Paix.
Allez-y, on vous écoute.
Oui, effectivement, pour aborder dans le même sens que mon prédécesseur, je sais très bien que le problème de l'urbanisme où les problèmes de construction anarchique se posent dans notre ville de Kananga ici.
Oui.
Après, nous comprenons très bien que Kananga, c'est une ville qui a été construite par les Belges, dans de bonnes conditions. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? L'État, les services de l'État donnent des parcelles là où ce n'était pas prévu.
Par exemple, où?
Par exemple, aujourd'hui, les mini-usines de production ou de fabrication de la bière que nous avons, l'Unibra, est menacé d'écroulement par l'érosion. Ça, c'est dans les quartiers industriels. Les gens ont construit là où il n'était pas prévu. Mais tous ces gens ont les documents délivrés par les services de l'État. C'est ce que nous trouvons que aujourd'hui, les services de l'État sont en train d'induire vraiment la République en erreur.
Et qu'est-ce que vous proposez comme solution?
Oui, la solution, on doit d'abord chercher les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que nous remarquons qu'on donne des terrains n'importe où. L'État doit prendre ses engagements pour protéger la population ainsi que les habitants de sa ville.
Merci beaucoup de nous avoir appelé de Kananga. Nous saluons également en passant tous ceux qui nous suivent à partir de la province du Kasaï occidental. Bonjour et bonne journée chez vous. Michon Yombo, vous êtes ingénieur en bâtiment et travaux publics, consultant dans un cabinet privé d'ingénierie. Je vous ai vu lorsque Ernest de l'Angleterre parlait, vous n'étiez pas très très d'accord avec lui. On peut laisser maintenant vous exprimer.
Bien évidemment, moi je suis ingénieur. C'est un bâtiment de 2-3 étages.
Lui, il est architecte.
Oui. C'est un bâtiment de 2-3 étages. Je me demande quelles sont les charges qu'on a pour qu'on puisse se bâtir sur de pieds de fondation.
Mmh.
Je doute fort qu'on ait 50 tonnes par poteau. Ça veut dire que ce sont des charges. Quand on a 20 tonnes, 30 tonnes, 40 tonnes par poteau, lorsqu'on fait la descente des charges d'un immeuble, c'est-à-dire lorsqu'on fait l'évaluation des charges que l'immeuble est censé supporter, et la politique c'est quoi? C'est faire une descente des charges pour pouvoir connaître comment les répartir sur le sol pour que la répartition de ces charges du bâtiment sur le sol puisse être capable de se supporter par ce sol-là.
Mais même si on construit dans un terrain sablonneux, dans un terrain marécageux comme ici à Lingwala, finalement, est-ce que toutes ces solutions-là valent vraiment la peine?
Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la technologie actuelle, on peut construire même sur la mer. C'est possible. Mais le problème là où ça peut poser problème, en fait, c'est quand on se dit qu'est-ce qu'on doit construire sur la mer et quelle est la rentabilité d'un tel projet. Vous êtes journaliste, vous êtes au courant. Au Japon, il y a un aéroport construit au-dessus d'une mer. Cet aéroport-là qui a une grande infrastructure. Si on peut construire ça au-dessus d'une mer, ça veut dire qu'on peut tout faire au-dessus de la mer. Mais le problème, c'est la rentabilité d'un tel projet. Faudrait-il que j'aille construire une maison d'habitation sur un terrain marécageux où les charges sont, par exemple, hautes, au lieu de construire ça sur un bon terrain où je dépenserais un peu moins d'argent. Donc, quand il a parlé de construction, faire des fondations sur pied, mais ce n'est pas l'unique solution qu'on fait quand on est sur un terrain marécageux. Il y a bien d'autres solutions. On a, ce qu'on appelle disons, une fondation sous-artifère, par exemple, un radier général, où ça, on fait faire. Voilà, c'est-à-dire, on construit toute une masse de béton que l'on va étaler sur l'ensemble du bâtisse, de manière à répartir d'une manière équitable les charges sur ce sol-là.
Merci. Voilà. On vous retrouve dans une poignée de secondes.
Voilà.
Parole aux auditeurs.
Nous avons des gens en ligne, Aubin de Kindou, on a aussi Francesca de Kinshasa. On commence par qui? On commence par Aubin de Kindou au Maniema. Bonjour Aubin.
Bonjour monsieur le journaliste.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Merci, je m'appelle Aubin Loufalamba Atoumichi, je suis étudiant à l'université de Kindou, première licence de droit public.
Oui.
Allez-y. Oui, je voudrais apporter ma contribution quant à ce qui concerne cet aspect des choses, parce qu'ici, il s'agit d'une question de contraste normatique, c'est-à-dire que le propriétaire de la parcelle, c'est-à-dire celui qui aurait mis la parcelle en construction, a fait un aspect selon lequel le droit reconnaît qu'il y a un aspect de dodas du latin, je donne et tu donnes. L'ingénieur qui avait construit sur ce terrain, c'est celui qui doit normalement donner toutes les indications pouvant donner la marche de cette construction. C'est pourquoi je vais faire appel à l'article 33 du Code civil congolais livre 3, qui dit que les conventions légalement formées tiennent les liens de loi pour ceux qui les ont faites, et elles ne doivent être résiliées que par les consentements mutuels de ceux qui l'ont fait.
Ça
signifie
quoi?
Pour ceux qui concernent cet aspect des choses, la loi aussi doit déterminer les conditions de ces contrats. Ensuite, ces contrats doivent être exécutés de bonne foi. Ici, il s'agit d'une question de forme. Il s'agit là de la réalisation du droit qui a été donné par un autre individu. Ici, l'ingénieur a l'obligation de résultat et n'a pas l'obligation de moyens. Lui doit nécessairement exécuter normalement ce qui a été donné par celui qui a donné le moyen pour construire la maison.
Aubin,
en ce sens, Aubin, le droit reconnaît.
Aubin, oui, vous êtes étudiant à la faculté de droit, mais finalement, dans ce cas, ces gens qui ont reçu des autorisations de bâtir du ministère de l'urbanisme et habitat, et ils perdent et à la fois des vies humaines, et puis ils perdent aussi leur maison. Que dit le droit? Est-ce que c'est l'État qui doit leur rembourser ou leur accorder des dommages à intérêt, ou c'est ils perdent totalement tout ce qu'ils ont pu avoir auparavant?
En principe, en droit, il est reconnu qu'un seul service qui est habilité à faire, n'est-ce pas, des donations pour des terrains, parce que tout individu est locataire dans le propre, c'est-à-dire dans les terrains de l'État. En ce sens, c'est le service de cadastre, ou soit le conservateur de titres immobiliers, qui est compétent pour céder des parcelles de l'open de terre pour chaque citoyen dans un pays.
Mais qui doit dédommager? Qui doit dédommager, d'après vous, vous êtes spécialiste en droit, qui doit dédommager ces personnes qui ont construit dans des terrains où il ne fallait pas construire, mais il y en a qui vont peut-être brandir aussi des documents de l'État. Qui va leur rembourser leur argent ou les dédommager?
On vous dit ici que les institutions restent et les individus passent. C'est l'État qui est en mesure de dédommager les gens qui avaient prêté le centre d'argent pour avoir développé des terres afin de construire. En ce sens, c'est l'État qui est responsable pour pouvoir dédommager tout individu qui a payé une somme d'argent pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, développé des terres pour construire.
Merci beaucoup, Aubin de Kindou. Hein. Merci de nous avoir rejoints à partir de cette province du Maniema. Bonne journée chez vous.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Aujourd'hui, nous parlons des confusions anarchistes à travers la ville de Kinshasa et à travers tous les pays, avec tous ces accidents qu'on a connus ici dans la ville de Kinshasa. Cette semaine et la semaine passée, dimanche, à Kinshasa, il y a eu 3 morts, 5 disparus et une quinzaine de maisons emportées sur un terrain éboulement qui s'est passé sur un terrain sablonneux de Kinshasa. Et la semaine passée, pour vous rafraîchir la mémoire, il y a eu effondrement d'un immeuble avec 3 morts. Et 2 blessés. Connaissez-vous les mêmes problèmes de construction anarchique là où vous êtes? Votre témoignage nous intéresse. Quelles sont les responsabilités dans ce domaine en RDC et quelle politique d'habitat préconisez-vous pour éviter d'autres drames à travers la RDC comme ceux que Kinshasa a connus cette semaine et la semaine dernière? N'hésitez pas à appeler nous au 081-99-77-800, 081-99-77-800. Vous pouvez également nous envoyer vos SMS à ce même numéro ou tout simplement, si vous êtes à l'étranger, envoyez-nous un mail à PA, en 2 lettres, PA, c'est le sigle de parole des auditeurs, @radioocapi.net. Francesca, vous êtes en ligne depuis Kinshasa. Bonjour Francesca.
Intervient en tant que témoin oculaire de la situation telle qu'elle s'est passée.
Oui.
Je suis une copine à un habitant de la concession juste à côté de l'immeuble qui s'est écroulé.
Oui.
Donc je suis assez de près de cette situation.
Andolo?
Andolo. Je suis une copine à un locataire de la concession à côté.
Allez-y.
Alors, donc pour le cas d'espèce, nous ne devons pas nous voiler de la face.
Mm.
Les responsabilités sont nettement claires dans ce sens qu'au moment où ils ont commencé les constructions, puisqu'ils ont construit cet immeuble sur le mur, donc la façade qui donne vers la route de Ndolo est construite sur le mur du voisin. Alors, quand ils ont commencé la construction, le voisin a saisi les parquets et la ville. Il y a des documents à l'appui.
Mm.
Pour leur dire que voilà, non seulement c'est une construction anarchique puisque ça passe sur là où la régie de l'eau a passé les canalisations, mais ils sont en train de construire sur le mur qui devait être nettoyant, mais qui a été construit en entièreté par le voisin d'à côté.
Mmh.
On a saisi le parquet a demandé qu'on suspende les travaux, les documents sont là. Et puis, on a saisi la ville, le gouverneur, ainsi que les autres autorités, avant même que la fondation ne finisse. Mais à notre grande surprise, on voyait, malgré tous les documents, cette construction-là avancer. Jusqu'au jour où il y a ces drames-là. Alors ici, c'est clair et net, les responsabilités doivent être partagées. En principe, pour qu'on puisse éviter ce genre d'actes à l'avenir, il fallait que d'abord les autorités de la ville qui étaient bel et bien au courant de cette situation, toutes démissionner, ça c'est de 1. Et de 2, il fallait qu'on interpelle aussi le parquet, puisque le parquet était bel et bien au courant, il avait pris des dispositions. Ils ont la plénitude de l'action publique, ils pouvaient utiliser la force publique pour arrêter les travaux, ils ne l'ont pas fait.
Mmh.
Donc il y a partage de responsabilité.
Merci.
Pour éviter qu'à l'avenir, ce genre de choses ne puissent se répéter, il faut que les autorités de la ville puissent démissionner. Les parties qui avaient été saisies puissent être interpellées, et puis il n'y a même pas lieu de parler de dédommagement,
puisqu'il
ne peut pas se prévaloir de sa propre suspicion, étant donné qu'il a construit de façon anarchique sur un lieu où il fait un terrain marécageux.
Merci Madame Francesca de nous avoir appelé de Kinshasa, surtout d'avoir témoigné, parce que vous êtes une voisine à la parcelle qui s'est effondrée. Merci. Si vous avez aussi d'autres témoignages à travers le pays ou à Kinshasa, n'hésitez pas à appeler comme Madame Francesca au 081-99-77-800, 081-99-77-800.
Parole aux auditeurs.
Michel Ouyombo, votre réaction face à ce témoignage quand même assez poignant. Les autorités étaient saisies, mais personne n'a apparemment réagi.
Oui, mais les informations dont je dispose prouvent que sur la parcelle où les bâtiments étaient construits, le monsieur n'a pas pu obtenir l'autorisation de bâtir. J'ai pu vérifier. Donc, il n'avait pas l'autorisation de bâtir.
Et comment a-t-il pu commencer les travaux?
C'est ça la question. Comment lui, qui n'a pas obtenu l'autorisation de bâtir, qui n'avait pas un personnel compétent pour réaliser les travaux, comment il a pu monter jusqu'à cette hauteur-là? C'est là, évidemment, où intervient la responsabilité de l'État. Parce que l'État devait veiller. Normalement, je sais qu'il y a des inspecteurs de l'habitat qui passent sur les chantiers de construction pour vérifier évidemment l'authenticité des documents dont les gens disposent et par voie de conséquence aussi et suivre le travaux ou faire le suivi des travaux des gens qui ont obtenu les autorisations pour vérifier si les plans qui sont en train d'être exécutés sont conformes aux plans qui ont été déposés là-bas. Mais la grande question qu'on se pose, pourquoi pour les cas d'espèce, on n'a pas pu se rendre compte que le médecin ne disposait pas de documents et qu'aujourd'hui, le bâtiment s'est effondré et c'est maintenant qu'on apprend que les gars n'avaient aucune autorisation. Alors là, il y a un autre débat. Est-ce que, parce que nous ne connaissons pas le monsieur, était-il quelqu'un qui avait de l'influence, quelqu'un chez qui un agent de l'État ne pouvait pas se présenter? Là, c'est encore un autre problème. Mais nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé. Mais peut-être, comme on a dit qu'il y a une action judiciaire, peut-être l'action judiciaire nous aidera à mettre la lumière sur ce dossier qui est quand même malheureux parce qu'il y a eu mort d'homme.
Mais Michaud Ouyumbou, vous êtes ingénieur en bâtiment et travaux publics, vous êtes consultant dans un cabinet privé d'ingénierie. Ce n'est pas le premier drame hein, à Kinshasa ou en République démocratique du Congo. Vous avez prédit, vous dites que si on continue dans ce sens, peut-être qu'il y aura aussi d'autres drames à travers le pays. Mais finalement, lorsqu'il y a mort d'homme ou que les gens perdent leur maison, leur bien, finalement, est-ce que la justice frappe ceux qui accordent justement ces autorisations de bâtir au niveau du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme?
C'est ça qui devrait être le cas. Malheureusement, pour ce cas-ci, les informations dont nous disposons font état que le monsieur n'avait pas l'autorisation de bâtir. Ça, c'est un premier problème. Il n'y a pas seulement un problème d'autorisation de bâtir. Il y a un autre problème qu'on ne soulève pas beaucoup, c'est la sécurité même pendant l'exécution des travaux. Quand moi, je passe sur le boulevard, il y a des endroits où vous avez des grues qui sont déployées à des grandes hauteurs, dont la zone de manœuvre des grues se retrouve complètement sur le boulevard. Alors, je me dis, et les travaux sont en train d'être exécutés au moment où il y a la circulation sur le boulevard. Je me dis, mais la grue peut céder. Vous avez suivi, vous êtes journaliste, il y a 2-3 mois passés, il y a 2 grues qui ont cédé à New York, entraînant le fondement des immeubles voisins. Donc il y a la sécurité même pendant l'exécution de travaux. Donc toutes ces choses-là, je pense que le ministère du Travail, le ministère de l'Urbanisme et l'Habitat, le ministère des Travaux publics doivent veiller pour que les travaux s'exécutent correctement, garantissant la sécurité. Voilà.
Ingénieur Michaud, vous êtes avec nous tout au long de cette émission. On vous retrouve dans une poignée de secondes.
Parole aux auditeurs.
Vous êtes très très nombreux hein, à vouloir intervenir dans cette émission Parole aux auditeurs, une émission interactive de Radio Capi qui vous donne l'occasion de réagir sur différents faits, sur différents événements qui touchent votre vie de tous les jours. Nous avons des gens en ligne, j'ai sur mon écran Étiste Boutembonor qui vous, l'ingénieur Mata de Bougna dans la province orientale, Molière TV, il n'a pas donné son nom mais je vois ici sur mon écran Molière TV. On commence d'abord par vous, Étiste Boutembonor qui vous, bonjour.
Oui, bonjour, M. Jean-Claude.
Voilà, parole vous est accordée maintenant.
Ok, moi, je n'ai rien d'autre à ajouter que la responsabilité là de la responsabilité de l'effondrement de l'immeuble de là à Yolo. Je veux dire ceci, la responsabilité là, ça se donne aux autorités, ce sont nos autorités qui sont à la tête de cet effondrement. Moi, je ne comprends pas comment est-ce que nos autorités sont parvenues à accorder à un individu un endroit pour construire un immeuble à l'étage alors qu'on savait que non, alors qu'on savait que cela pouvait occasionner des pertes de morts. Ça, il n'y a aucune autre personne à qui on peut donner la responsabilité.
Et qui est-ce que la population n'est pas aussi, est-ce que la population congolaise n'est pas aussi fautive quelque part? Souvent, les gens connaissent hein, que ça c'est des terrains marécageux où l'on ne peut pas construire, ou bien c'est des terrains sur lesquels l'État va construire des immeubles d'intérêt public. Mais souvent, la population va donner de l'argent, excusez-moi, des escrocs, pour que la situation se retourne ensuite contre eux.
Ils mettent au-dessus de la loi. Ce que la loi a dit. Personne ne peut contredire, à moins que ce soit la loi elle-même. Dès qu'on a déjà établi les lois pour la construction et pour la construction d'un pays ou d'une ville quelconque, là, ce sont les autorités qui sont à la tête. Personne ne viendra dire que non, en tout cas comme la loi a dit, effectivement, je contredis ça. Non, c'est directement, à moins que ce soit la loi elle-même.
Merci. Merci beaucoup, Étiste, de nous avoir joints depuis la belle ville d'Ubutembonor Kivu. Ingénieur Mata, vous êtes à Bougna et vous êtes en direct sur Radio Capi. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. C'est moi, ingénieur Mata Mwangi.
Allez-y, on vous a déjà présenté.
Allô, c'est bien ingénieur Mata qui vous appelle de la ville de Bounia.
Dans la province orientale. Allez-y, on vous écoute.
Oui. J'ai suivi les interventions de la plupart des intervenants. Étant ingénieur agronome en pédologie, vous attendez la science du sol, j'aimerais un peu apporter ma réflexion sur le plan purement technique en ce qui concerne le sol. Alors, quand on dit que le sol est sablonneux, moi, à ma connaissance, un sol sablonneux, c'est là où il y a une prédominance qualitative des sables. C'est-à-dire, il peut dire, la proportion de sable peut aller au-delà de 80, disons, autour de 87%, la proportion aliment autour de 20% et d'argile à 13%. Alors, on doit savoir que un terrain sablonneux a une dominance qualitative des sables. Or, les sables ont une particularité, les sables sont des particules minéralogiques de dimension supérieure ou égale à 50 microns. Et donc caractérisé par une simple adhésion et cohésion.
C'est trop difficile.
Hein. Des sols qui
ingénieur.
Sont très susceptibles. Oui.
Ingénieur, est-ce que vous pouvez parler le langage de tout le monde? Parce que ça, c'est trop technique quoi, pour les millions d'auditeurs de Radio Captive. Allez directement au but.
Oui. Allez directement au but. Alimenter ça. Donc, je dirais que ces sols-là sont très susceptibles à plusieurs types d'érosion, dont les éboulements, les glissements de terrain, et tout de suite. Alors, en pédologie, on dit que l'érosion est causée comme la pire ennemie de l'homme. Je pense pas que j'aurai assez de temps pour essayer d'expliquer cela. Mais pas tout le monde en fait les conséquences. Alors, à propos des accidents qui surviennent dans la capitale de la RDC, le pôle serait la capitale.
Ingénieur Mata,
je parle de l'État, oui.
Est-ce que vous pouvez vous déplacer un tout petit peu? Parce qu'on vous reçoit en préjupé. Hein.
D'accord. À vous, là, il pleut un peu, là, et je pense que c'est ce qui est fait un peu de détériorer.
Concluez.
Alors, je vous dis ceci. Je ne sais pas si vous me captez très bien maintenant.
Concluez, on vous entend très bien maintenant.
Oui, je voudrais dire ceci. Pourquoi je dis l'État? Parce que l'État devait lui-même s'impliquer dans la départementalisation des sols. Quand on parle de la départementalisation, c'est-à-dire l'État lui-même doit faire des études pour dire que tel sol convient à tel usage et non à tel autre. Ou alors, si ça convient à tel usage, c'est moyennant telle ou telle autre condition. C'est ce qui n'est pas fait. Ça, c'est d'abord le premier problème de l'État. Et deuxièmement, pourquoi je parle de personnes qui cherchent les ingénieurs pour construire? Ces gens ont d'abord de l'ignorance. C'est-à-dire qu'au Congo, tout le monde veut s'appeler ingénieur. Même quelqu'un qui a fait les cycles d'orientation ou les humanités en maçonnerie, il s'est dit ingénieur.
Merci, on vous
et même les gradués en construction de l'IBTP pour dire ingénieur.
Merci.
Ils prennent des décisions, oui, je dis,
ingénieur.
Des décisions qui dépassent leur niveau.
Ingénieur, merci beaucoup, on vous a compris. Il faut que l'État s'implique et puis tout le monde ne peut pas s'appeler ingénieur.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Vous êtes bien sur Radio Capi, vous suivez l'émission Parole aux auditeurs, l'émission interactive de Radio Capi qui donne aux auditeurs l'occasion de réagir en direct au téléphone, par SMS et par Internet. Au téléphone, appelez-nous au 081-99-77-800, 081-99-77-800. Et si vous êtes à l'étranger, n'oubliez pas le code 00-281-99-77-800. Et vous pouvez également nous envoyer un SMS à ce même numéro ou nous écrire carrément par internet à l'adresse PA en deux lettres, PA c'est l'indicatif de parole aux auditeurs, @radiookapi.net. Voilà, nous parlons aujourd'hui catastrophe, construction anarchique à travers la RDC. Connaissez-vous les mêmes problèmes de construction anarchique là où vous êtes? Votre témoignage nous intéresse. Quelles sont les responsabilités dans ce domaine en RDC? Quelle politique d'habitat préconisez-vous pour éviter d'autres drames à travers la RDC comme ceux que Kinshasa a connus cette semaine et la semaine dernière? Nemba Lemba, vous êtes à Kinshasa. Et vous êtes en direct sur Radio Okapi, on vous écoute.
Oui, bonjour Radio Okapi.
Bonjour.
Ah, je suis en train de suivre tous les soi-disant ingénieurs qui sont en train de parler. Le vrai problème, cher ami, ça ne se trouve pas là.
Les soi-disant ingénieurs, pourquoi? Est-ce que c'est pas trop,
écoutez,
trop fort?
Je suis à Kinshasa, je construis. Quand il y a un ingénieur qui vient avec un plan, et normalement je le rejette directement puisqu'il est cher. Alors je me retourne vers un conducteur de travaux. Et le conducteur de travaux dépend financièrement de moi et de ma bonne volonté. Ce qui fait que quand il me dit par exemple de mettre 5 sacs de ciment pour couler telle colonne, je dis non, tu en mets 3. Et s'il n'est pas d'accord, je le fous à la porte. Tout simplement. Et il n'y a personne, alors personne ici à Kinshasa, que ce soit au niveau du gouvernement ou quoi que ce soit, qui est capable, qui a un matériel pour mesurer la solidité, que ce soit du sol, etc. Ça n'existe pas, ça coûte tellement cher. Donc il ne faut pas chercher, c'est l'autorité qui est totalement responsable, et je dirais même qui est complice. Je vous donne un exemple. Allez à l'hôpital de Kitambo. Vous allez voir, il y a un caniveau qu'on a prévu pour l'évacuation des saletés de l'hôpital de Kitambo. Mais il y a un monsieur qui est en train de construire directement à côté, sans ingénieur, sans quoi que ce soit. Donc, il ne faut pas se voiler la face. C'est l'incompétence des dirigeants de notre pays. Nous sommes compris. Je vous dis moi-même, c'est honteux de dire ça, mais moi-même, ça m'est déjà arrivé où mon maçon, on construit avec des maçons, on construit avec des conducteurs de travaux, on n'a plus besoin d'ingénieurs.
Merci beaucoup de nous avoir contacté.
Donc, je demande à Radio Okapi, faites un peu une petite enquête ou descente au niveau de l'hôpital de Kitambo, et voyez par exemple les ingénieurs qu'on nous amène aussi, des ingénieurs chinois. Ils ne parlent pas français. Il est en train de communiquer avec des cantonniers, des
maçons. Mais ils ont des interprètes, hein.
Oui, mais des interprètes. Vous avez vu le boulevard, ils ne parviennent même pas à avoir un niveau. Ils sont en train de couler une couche de 3 cm. Dans 2 mois, ça va s'écrouler, ça
merci.
Va s'attaquer au caniveau.
Merci. Malheureusement, M. Nemalemba, merci pour votre contribution. Malheureusement, il y a plusieurs qui sont en attente, hein, qui voudraient aussi intervenir comme vous. Merci d'avoir apporté votre contribution. Bonne journée, M. Nemalemba, qui intervient à partir de Kinshasa. M. Uyumbu, vous êtes ingénieur en bâtiment et travaux publics, consultant en cabinet privé d'ingénierie. Il y a un problème, hein, qu'on vient de le soulever, certains auditeurs. Il y a aussi des conducteurs de travaux qui ne sont pas des ingénieurs qui se mettent à construire des maisons comme ça. Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est un problème? M. Nemalemba a aussi parlé du problème du manque de matériel approprié pour la construction.
Non, là c'est faux. Je suis désolé, M. Nemalemba n'a pas l'information. Il y a des laboratoires. Il y a le laboratoire national des travaux publics qui a un équipement qu'il faut pour faire tous les différents essais de sol et savoir la portance ou les charges que le sol peut supporter. Il y a un autre laboratoire de l'Office des Congolais du Contrôle, qui a un matériel qu'il faut pour faire tous les sondages du sol et connaître la nature du sol. Donc, c'est peut-être l'information qu'il n'a pas.
Mais est-ce que tout le monde, tous les ingénieurs comme vous, avant de construire des maisons, est-ce que vous allez consulter, est-ce que vous allez, je ne sais pas, expérimenter les sols ou bien faire des calculs dans ces laboratoires?
Absolument. Donc, on ne peut pas s'hasarder de construire un immeuble sans qu'on ait demandé au préalable une étude de sol. Donc, nous qui travaillons dans le bureau d'études, nous demandons d'abord, dès que nous avons le plan, et que nous devons faire ce que nous appelons les calculs de structure de l'immeuble, nous devons avoir, premièrement, les analyses du sol, donc tous les essais de sol dont nous avons besoin pour connaître, en fait, quelle est la capacité portante de ce sol-là, quelle est la charge au centimètre carré que ce sol peut supporter. C'est par rapport à ce but, c'est comme un médecin. Donc, aucun médecin ne peut faire un diagnostic sérieux sans qu'il ait demandé les examens de laboratoire. Donc, s'il y a quelqu'un qui, tout d'un coup, fait tout un diagnostic sans examen de laboratoire, on se rend tout de suite compte que c'est un charlatan.
Mais il semble qu'il y a aujourd'hui des maçons qui se prennent pour des ingénieurs en construction comme vous.
Absolument. Donc, les gens qui ne sont pas...
Est-ce que c'est vrai? Vous le confirmez? Qui conduisent des chantiers comme vous?
Nous le savons et on ne peut pas se voiler la face. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai suivi quelqu'un qui a évoqué le coût. Il a dit non, ça coûte cher. C'est vrai. Donc, lui, il doit avoir une maison qui va rester 50 ans, 100 ans. Et combien il veut payer à celui qui doit lui faire la réalisation de ce projet?
Et combien on peut vous payer? Vous, vous êtes ingénieur en construction en bâtiment. Combien on peut vous payer pour construire une maison, par exemple?
Normalement, c'est par rapport à l'importance du projet et par rapport à la tête de maître de l'ouvrage. Donc, il y a deux éléments qui interviennent. Sur un projet de 10 000 $, donc, il y a des pourcentages qui sont connus.
Combien?
Combien?
Pour l'ingénieur.
Si le projet est moins important, les pourcentages vont carrément de 1 à 10%. Ils diminuent par rapport au coût du projet. Si le coût du projet est très élevé, le pourcentage peut être de 1 à 2%. Et quand le coût du projet est très bas, le pourcentage peut être de 7 ou 8%. Donc ce n'est vraiment pas beaucoup par rapport à l'ouvrage qu'on réalise.
Merci beaucoup.
Parole aux auditeurs.
Vous êtes très, très nombreux à vouloir intervenir dans cette émission Parole aux auditeurs, l'émission interactive de Radio Capi qui vous donne l'occasion de réagir en direct au téléphone, par SMS ou encore par Internet au sujet que nous avons choisi pour vous. Aujourd'hui, nous avons en ligne Didier de Manono depuis le Katanga. Il y a aussi Sassico et voilà, sur mon écran, je vois plusieurs noms. Il y a Julia de Kikwit, il y a Paulin d'Isiro dans la province orientale. Bonjour Julien, vous êtes à Kikwit dans la province du Bandundu. Allez-y, on vous écoute.
Oui, alors, bonjour monsieur le journaliste, je suis à Kikwit et je voulais juste aborder l'aspect construction anarchique. Moi je crois qu'aujourd'hui les services d'urbanisation ne font pas réellement leur travail. Parce que imaginez-vous, ici à Kikwit, il y a un quartier là, quand vous quittez de la vallée pour Villebasse, tout cet étendu-là ne devait pas être battu. Mais on voit des maisons et la construction anarchique est en train de nous amener à des milliers de ravins ici à Kikwit. Imaginez-vous, Kikwit est maintenant parmi les premières villes où il y a beaucoup de ravins. Et c'est chaque jour, quand il pleut, où se crée quand même un ravin. Imaginez-vous ce que les Chinois sont venus faire ici. Ces caniveaux. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement sur ces caniveaux? On a essayé un peu de pallier la situation pour construire des caniveaux en fait des lycées contre les érosions, mais sans succès. Les caniveaux qu'on voit dernièrement vers la navale, ce n'est que la notion de débit n'est pas respectée.
Merci beaucoup, madame Julia. Malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup d'autres auditeurs.
Non, je voulais juste dire ceci. On ne peut pas parler de coagulation sans arrêt de l'hémorragie. Et que nos dirigeants doivent se prendre au sérieux et doivent chercher comment arrêter la dégradation pour débiter la santé.
Merci beaucoup de nous avoir appelé depuis la ville de Kikwit au Bandundu, madame Julia. On va passer à Paulin Dissingo, rapidement, Paulin. Bonjour, Paulin.
Ah, bonjour.
Rapidement, il ne nous reste très peu de temps pour conclure cette émission. Allez-y, rapidement.
Ok, moi, je suis Dissingo. Moi, je voudrais connaître, en tout cas, cette maison va faire comme ça. Moi, je voudrais connaître les causes de cette maison qu'on a fait comme ça.
Les causes de quoi?
La maison qu'on a fait comme ça, pour construire un bâtiment comme ça. Est-ce qu'on peut, même on peut utiliser un fer béton de 4 mètres ou de 5 mètres pour de la maison salue?
Merci beaucoup pour votre intervention, Paulin. On va conclure avec vous, Didier de Manono, rapidement. Bonjour Didier.
Oui, bonjour. J'aimerais parler par rapport à la politique d'habitat. Moi, je propose à l'État congolais de construire de nouvelles villes. Par exemple, le gouverneur du Katanga voulait construire la nouvelle ville de Lubumbashi, mais il n'a pas été compris. Je crois qu'on doit construire une nouvelle ville de Kinshasa, une nouvelle ville de Kisangani, une nouvelle ville de Bukavu, une nouvelle ville de Lubumbashi. Comme ça, les gens peuvent vivre en toute quiétude. Au lieu que tout le monde puisse s'attacher à Kinshasa, à Lubumbashi.
Merci beaucoup Didier de Manono Katanga et nous saluons en passant tous les auditeurs de Manono et du Katanga. Voilà, nous remercions Sassiko de Kolezi et Masumbuko de Walikale au Nord qui vont pas conclure avec vous Michon Yombou, vous êtes directeur ingénieur en bâtiment et travaux publics. Depuis 1960, l'État congolais n'a construit que 3000 maisons et de 52 à 60, les Belges en avaient pourtant construit 32 000. Finalement, quelle politique d'habitat pour ce pays? Est-ce qu'il faut construire de nouvelles villes, comme vient de le suggérer Didier de Manono Katanga?
Qu'avant devenir les anciennes villes? C'est vrai que cela prouve l'insuffisance d'une politique cohérente en matière d'habitat, parce que toutes ces constructions anarchiques, l'une des causes évidemment, est le manque d'une politique cohérente de l'habitat. Donc l'État devait absolument mettre de moyens pour construire des logements sociaux pour la population, parce que c'est l'État seul qui a le moyen suffisant, et c'est l'État qui connaît l'éthique et la déontologie en matière de construction de maisons.
Ou favoriser les privés à le faire aussi.
Non, non, dans le contexte actuel, je ne vois pas un privé qui va construire les logements sociaux au Congo.
Et de nouvelles villes, est-ce que c'est possible de construire de nouvelles villes pour Kinshasa, pour le Bas-Congo, pour le Katanga?
Évidemment, c'est-à-dire, ce qu'il dit nouvelles villes, pour moi, c'est peut-être l'extension des anciennes villes, tout en essayant de résoudre le problème qui se pose dans les anciennes villes, construire d'autres cités aux alentours des anciennes villes et essayer de résoudre petit à petit le problème qui se pose dans les anciennes villes. C'est un peu ça, en
fait. Merci beaucoup, Michel Ouyombo, d'être intervenu dans cette émission. Je rappelle que vous êtes ingénieur en bâtiments et travaux publics, et, mais aussi consultant dans un cabinet privé d'ingénierie.
C'est moi qui vous remercie.
Je vous en prie.
Allô? 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 Mais, ils ne répondent pas?
Merci à Robert de Bukavu, Jacques de Harou, Michel de Guadolité, à tous les autres auditeurs qui nous ont écrit par SMS ou par Internet, mais nous n'avons pas pu lire leur message. À la prochaine occasion peut-être. Demain mardi, nous parlerons avec vous de la hausse des factures de consommation du courant électrique dans les réseaux domestiques à travers le pays, effective depuis le mois d'avril. N'hésitez pas à envoyer-nous déjà vos réactions après cette émission par SMS au 081-99-77-800 et par Internet à l'adresse pa@radiocapi.net. Vous pouvez réécouter cette émission sur Internet en allant sur www.radiocapi.net. Elle est aussi rediffusée chaque jour de l'émission après le flash de 20h heure de Kinshasa et 1h de plus à l'Est. Sikimpou Tou et Pierrot et Lamechi vous ont préparé cette émission. Paul Badianyama était à la mise en onde sous la coordination de Ben Kabamba. On se retrouve demain à partir de 11h heure de Kinshasa. Au revoir.